1er août. Ma petite mère Varvara Alexeyevna. Vous êtes heureuse, ma petite mère, que Dieu vous ait donné l'occasion de rendre à votre tour le bien qu'on vous a fait et de me témoigner votre gratitude. Je l'apprécie, Varinka, et je crois à la bonté de votre petit cœur d'ange. Ce n'est donc pas un reproche que je vous fais. Mais ne me rappelez pas comme l'autre fois que je me suis laissé aller à des folies dans mes vieux jours. Eh oui, j'ai péché, que voulez-vous? Si vous tenez absolument à ce que ce soit un péché. Seulement, ma bonne et brave amie, il m'est dur à moi d'entendre de telles choses de votre bouche. Il m'en coûte. Ne m'en voulez pas de parler ainsi, il y a quelque chose qui se déchire dans ma poitrine. Ma petite mère, les pauvres gens sont capricieux, c'est la nature qui l'a voulu ainsi. C'est une chose que j'avais sentie déjà auparavant. L'homme pauvre est exigeant, méfiant. Il a une façon à lui de voir le monde et il regarde chaque passant de travers. Il promène autour de lui des regards inquiets, craintifs, dressant l'oreille à chaque mot qu'il entend. Ne serait-ce pas de lui par hasard que l'on parle? N'aurait-on pas fait une remarque sur son allure gênée et ridicule? N'a-t-on pas voulu lire ironiquement dans son cœur? Ah, voilà qu'on l'examine maintenant pour savoir l'air qu'il a du côté gauche, et puis on l'étudie ensuite du côté droit. Ah, car on sait bien, Varinka, que l'homme pauvre ne vaut pas plus qu'un chiffon et qu'il ne saurait prétendre pour lui-même à aucune espèce de respect. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on écrive là-dessus. Ah, ces écrivailleurs, ces noircisseurs de papier, ils ont beau aligner des phrases, l'homme pauvre restera ce qu'il est, rien ne sera changé en lui. Pourquoi donc demeurera-t-il toujours le même? Mais parce que, selon tous ces gens-là, tout doit être à découvert chez lui, étalé aux yeux de chacun. Rien ne doit demeurer secret ou sacré dans son âme. Il lui est interdit d'avoir de l'amour-propre ou de la fierté. Ah, ça non, par exemple. Tenez, Émilien m'a raconté l'autre jour qu'on avait organisé une souscription en sa faveur et que pour chaque 10 copecs qu'il lui donnait, les souscripteurs se croyaient autorisés à entreprendre une inspection quasi-officielle de sa personne et de sa vie. Ils s'imaginaient lui faire cadeau de leurs sous. Ce n'était pas vrai. Ils payaient en réalité pour qu'on leur fasse voir un homme pauvre. De nos jours, Varinka, tout se fait bizarrement, même la bienfaisance. Mais il en a peut-être été toujours ainsi, qui sait? Ou bien ces gens ne savent pas s'y prendre pour faire le bien, ou bien ils sont trop habiles, l'un des deux. Ce sont des choses que vous ignoriez sans doute, ma petite mère. Apprenez-les maintenant. Pour tout le reste, on ne compte pas. Mais sur ce point, on sait ce qu'on est. Pourquoi, me demanderez-vous, l'homme pauvre sait-il tout cela? Et pourquoi pense-t-il de cette façon? Par expérience. Tout simplement par expérience. Parce qu'il sait, par exemple, que ce monsieur qui marche à quelques pas de lui dans la rue et se dirige vers un restaurant, se dit à lui-même « Oh, je voudrais bien savoir ce que ce miséreux de petit fonctionnaire va manger aujourd'hui. Moi, je m'en vais commander un sauté papillote, tandis que lui, il devra se contenter sans doute d'un gruau cuit sans beurre. » Il y a des hommes comme cela, Varinka. Il y en a qui passent leur temps à faire des réflexions de ce genre. Ils se promènent, ces pamphlétaires inconvenants, ces vils gribouilleurs, et vous observent dans la rue, pour voir, par exemple, si vous posez le pied à plat sur la chaussée, ou si vous marchez sur la pointe de vos chaussures. Ils veulent savoir si ce fonctionnaire, humble conseiller titulaire de tel ou tel département, n'aurait pas par hasard des chaussures trouées d'où sortent des orteils nus, ou bien si ses manches ne sont pas usées jusqu'à la corde. Ils notent tout cela en passant, et puis ils le décrivent, et ils publient ensuite d'abominables livres. Mais que lui importe, diable, que mes manches soient trouées au coude? Pardonnez-moi, Varinka, cette comparaison grossière, mais je vous dirai que l'homme pauvre possède en tout cela la même pudeur que vous, par exemple, en tant que jeune fille. Vous n'irez pas, n'est-il pas vrai, enfin, pardonnez-moi encore cette comparaison brutale, vous dévoiler en public. Eh bien, l'homme pauvre n'aime pas, lui non plus, qu'on fourre le nez dans sa tanière pour voir comment il vit en famille. Je n'étais donc pas bien de m'offenser l'autre fois, Varinka, de connivence avec mes ennemis qui cherchent à s'en prendre à l'honneur et à l'amour propre d'un honnête homme. Oh, je me sentais si mal à l'aise aujourd'hui à la chancellerie. Je me ramassais sur moi-même comme un hérisson. Je me serrais comme un moineau plumé. Il me semblait que la honte me dévorait et me brûlait les pieds à la tête. J'étais gêné et honteux de moi-même, Varinka. Et comment ne serait-on pas timide et embarrassé quand le coude nu transparaît à travers la manche de la tunique et que les boutons de l'uniforme dansent au bout d'un fil? Comme par un fait exprès, tout était en désordre dans ma toilette ce matin. On perd involontairement courage dans ces conditions. Et puis, Stefan Karlovitch lui-même s'était mis à me parler d'affaires aujourd'hui, et au bout d'un moment, il lâcha tout d'un coup, comme par hasard. Eh, Makar Alexievitch, mon petit père! Il n'acheva pas de dire à quoi il pensait. Mais je l'ai deviné immédiatement, et j'ai rougi de telle façon que ma calvitie est devenue rouge elle aussi. Cette exclamation semblait anodine, à vrai dire, mais elle m'inquiète néanmoins et me donne toutes sortes d'idées. N'aurait-on pas appris dans mon service ce qui s'est passé? Dieu m'en préserve, qu'adviendrait-il s'il le savait? Je soupçonne fortement, je dois l'avouer, une certaine personne. Ces misérables sont sans pitié. Ils me trahiront, ils vendront toute ma vie secrète. Rien n'est sacré pour eux. Je sais maintenant qui a vendu la mèche. C'est Rataziaïev qui m'a joué ce tour-là. Il connaît quelqu'un dans notre service et il a dû lui raconter la chose en passant au cours d'une conversation avec des adjonctions de son cru, j'imagine. Ou bien il en a parlé dans son service à lui, et la rumeur s'est glissée de là dans notre service. Car dans mon appartement, tout le monde, sans exception, est au courant de cette histoire, et on y montre votre fenêtre du doigt. Hier, au moment où je suis allé dîner chez vous, ils se sont tous mis à la fenêtre, et notre logeuse a cité le dicton sur le diable qui tourne autour de l'enfant. Après quoi, elle s'est servie d'un mot inconvenant pour parler de vous. Tout cela n'est rien encore en présence de la lâche intention de Rataziaïev de nous mettre, vous et moi, dans sa littérature et de nous dépeindre dans une fine satire. Il l'a déclaré lui-même, et de braves gens chez nous m'ont rapporté ses paroles. Oh, ma tête est sans dessus-dessous depuis lors. Je ne puis penser à rien, ma petite mère, je ne sais quelle décision prendre. À quoi bon nous le cacher? Nous avons attiré par nos péchés le courroux du Seigneur sur nous, mon doux ange. Vous vous proposiez, ma petite mère, de m'envoyer un livre pour me distraire? Oh non, diable, ce livre, je n'en veux pas. Cela ne vaut rien, les livres. Ce sont des histoires invraisemblables, impossibles. Les romans ne sont que les tissus d'ineptie. Ils ont été écrits par désœuvrement, sans but sérieux, uniquement pour occuper les oisifs. Croyez-moi, ma petite mère, fiez-vous dans ces choses à ma longue expérience. N'écoutez pas les gens qui vous parlent d'un certain Shakespeare, car il existe, paraît-il, un écrivain de ce nom dans la littérature. Au diable Shakespeare! Ce Shakespeare ne vaut rien non plus. Ineptie, ineptie que tout cela. C'est des intentions pour servir de prétexte à des pamphlets, à des pasquinades. Votre Makar Dievushkin. août. Cher monsieur Makar Alexeyevitch, ne vous tourmentez donc pas ainsi. Avec l'aide de Dieu, tout s'arrangera. Fiodora s'est procuré une masse de travail pour elle et pour moi, et nous nous sommes mis à l'œuvre avec beaucoup d'entrain. Peut-être parviendrons-nous à surmonter de cette façon toutes les difficultés. Fedora pense qu'Anna Fyodorovna n'est pas étrangère, peut-être, à mes derniers ennuis. Mais cela m'est égal maintenant. Je me sens particulièrement gai aujourd'hui. Vous parlez d'emprunter de l'argent, que le ciel vous en garde. Vous ne vous en sortirez plus par la suite, lorsqu'il faudra rembourser. Vous feriez mieux de vous rapprocher un peu plus de nous, de venir plus souvent nous rendre visite. Oui, quant à votre logeuse, n'y faites pas attention. Pour ce qui est de vos autres ennemis et persécuteurs, je suis sûr que vous vous tourmentez avec des soupçons injustes, Makar Alexeyevitch. Surveillez-vous. Ne vous ai-je pas dit la dernière fois que votre style est très saccadé depuis quelque temps? Adieu maintenant, au revoir. Je vous attends chez moi aujourd'hui, n'y manquez pas. Votre V.D. août. Mon doux ange Varvara Alexeyevna, je m'empresse de vous informer, mon rayon de lumière, qu'il m'est venu quelques espérances. Tout d'abord, vous m'écrivez, mon petit ange, que je ne dois pas emprunter de l'argent. Mais voyons, ma colombe, je ne puis m'en passer maintenant. Ma situation à moi est déjà précaire en elle-même, et si par malheur il vous arrivait quelque chose avec cela, car vous êtes de constitution faible. Je vous écris donc en ce moment pour vous dire qu'il est devenu indispensable d'emprunter. Par conséquent, je poursuis. Sachez, Varvara Alexeyevna, que ma place à la chancellerie est voisine de celle d'Emilia Ivanovitch. Oh, ce n'est pas l'Émilien que vous connaissez. Celui-ci est, tout comme moi, conseiller titulaire, et nous sommes, lui et moi, les deux fonctionnaires les plus anciens de notre service. Nous en sommes en quelque sorte les piliers. C'est une bonne âme, un homme désintéressé, mais très taciturne, et qui se tient toujours à l'écart, un véritable ours. En revanche, un travailleur infatigable. Et il a une de ses plumes, de la pure calligraphie anglaise. Pour dire toute la vérité, il écrit aussi bien que moi, le digne homme. Nous n'avons pas été très liés jusqu'ici, nous bornant à échanger les bonjours et les au revoir d'usage. Parfois, quand j'avais besoin d'un canif, je m'adressais à lui comme ça. « Prêtez-moi donc votre canif, lui disais-je. » Bref, tout se bordait aux civilités exigées par les convenances. Et voilà qu'il me dit tout à coup ce matin, « Qu'avez-vous, Makar Alexeyevitch, vous paraissez pensif. » Oh, je me suis rendu compte qu'il me voulait du bien. Alors, je me suis ouvert à lui. « Voyez-vous, Emilien Ivanovitch, lui ai-je dit, il y a ceci et cela, enfin, c'est-à-dire que je ne lui ai pas tout dit, que Dieu m'en garde. Je ne lui dirai jamais tout, le courage m'en manquerait d'ailleurs. Je me suis tellement ouvert à lui de quelques détails, lui confiant que je suis dans la gêne, et ainsi de suite. Mais, m'a-t-il répondu, pourquoi n'empruntez-vous pas de l'argent en ce cas, mon brave ? Adressez-vous donc à Pierre Pietrovitch, il prête contre intérêt. Il m'en a avancé à un taux convenable, supportable. Ah, Varinka, mon cœur a bondi dans ma poitrine à ces paroles. Je me mis à réfléchir longuement. Qui sait, le Seigneur lui inspirera peut-être à Pierre Pietrovitch, à ce bienfaiteur, de m'accorder une avance à moi aussi. J'ai calculé ainsi que je pourrais payer ma dette à la logeuse et vous aider également. et enfin que je pourrais améliorer quelque peu ma tenue. Car c'est une honte d'être mis de cette façon. Je ne me sens plus à mon aise au bureau, sans parler de tous ces moqueurs malveillants qui ne cherchent que prétexte à vous railler. Ben, laissons-les. Toutefois, il pourrait arriver que son Excellence passe devant notre table. Cela arrive de temps en temps. Il pourrait, oh que Dieu m'en garde, jeter un coup d'œil sur moi et s'apercevoir que je ne suis pas vêtu convenablement. Or, la propreté et la correction comptent plus que tout à ses yeux. Oh, il ne me dira rien, sans doute, mais je mourrai sur place de honte et de confusion. Voilà ce qui risque d'arriver. C'est pourquoi, ayant pris mon courage à deux mains et fourrant ma honte dans ma poche trouée, je me suis dirigé vers Pierre Pietrovitch, plein d'espoir, mais tremblant de crainte à la fois, le souffle coupé par mon attente anxieuse. « Eh bien, Varinka, imaginez-vous que tout cela a fini en queue de poisson. Il était occupé à ce moment et s'entretenait avec Tadeu Ivanovitch. Je me suis approché de lui, comme ça, de côté, et l'ai tiré par la branche, disant « Pierre Pietrovitch, eh, Pierre Pietrovitch !» Il s'est retourné, et j'ai poursuivi en lui expliquant que j'avais comme ça besoin de 30 roubles, etc. Il n'a pas compris tout d'abord ce que je voulais. Ensuite, quand je lui expliquais la chose, il s'est mis à rire, mais n'a rien répondu, et s'est tu tout simplement. J'ai répété ma demande. « Avez-vous un gage ? » fit-il alors. Et il se replongea dans ses écritures, poursuivant son travail sans me regarder. Oh, je me suis troublé légèrement. Non, ai-je répondu non, je n'ai pas de gage, Pierre Pietrovitch. Je me suis efforcé de le convaincre que je le rembourserai dès que j'aurai touché mon traitement, que je le paierai immédiatement, que ce sera pour moi un devoir sacré. Et alors quelqu'un l'appela en cet instant. J'attendis, il revint et commença à tailler sa plume comme s'il ne remarquait pas ma présence. Je suis revenu à la charge. N'y aurait-il pas moyen, Pierre Pietrovitch, de quelque façon ? Il continuait de se taire et faisait semblant de ne pas m'entendre. J'ai attendu quelques instants encore, debout près de lui. Puis j'ai décidé de tenter un dernier essai. Je l'ai donc tiré par la manche de nouveau. Il n'a pas dit un mot, et ayant achevé de tailler sa plume, il s'est remis à écrire. Je me suis éloigné. Voyez-vous, ma petite mère, ce sont tous des gens très dignes et très respectables, sans doute, mais tellement fiers qu'on ne sait plus comment les prendre. Nous sommes trop petits pour eux, Varinka. C'est pourquoi je vous écris tout cela. Emilien Ivanovitch s'est mis à rire quand je lui ai raconté l'histoire. Et il a hoché la tête avec ça, lui aussi. En revanche, il m'a donné des espérances, le brave homme. Emilien Ivanovitch est un digne homme. Il m'a promis de me recommander à une de ses reconnaissances. Il s'agit de quelqu'un, Varinka, qui habite dans le quartier de Viborg, et qui prête également intérêt à un fonctionnaire de 14e classe, paraît-il. Emilien Ivanovitch prétend qu'il m'avancera la somme à coup sûr. J'irai le trouver demain, mon doux ange, j'irai le voir. Qu'en pensez-vous? N'ai-je pas raison? Il est indispensable d'emprunter. La logeuse parle de me mettre à la porte et ne consent plus à me donner à dîner. Mes chaussures sont dans un état pitoyable, ma petite mère, et il me manque des boutons et tant d'autres choses encore. Qu'arriverait-il si l'un ou l'autre de mes chefs remarquait ma tenue inconvenante? Ce serait un malheur, Varinka, un malheur, une vraie catastrophe. Makar Dievushkin. 4 août. Cher Makar Alexeyevitch, au nom du ciel, Makar Alexeyevitch, procurez-vous de l'argent en protestant le plus vite possible. Pour rien au monde, je n'aurais voulu vous demander une aide dans les circonstances présentes, mais vous ne savez pas dans quelle situation je me trouve. Il nous est impossible de demeurer dans cet appartement en aucun cas. J'ai eu de terribles désagréments, et vous ne pouvez imaginer dans quelle agitation intérieure je me trouve en cet instant, combien je suis bouleversé. Figurez-vous, mon ami, que ce matin, un monsieur inconnu, âgé, presque un vieillard, avec beaucoup de décorations, est venu chez nous. J'étais extrêmement surprise, ne comprenant pas le motif de sa visite. Fedora venait justement de sortir pour faire une course. Il se mit à me questionner, m'interrogea sur mon genre de vie et sur mes occupations. Sans attendre la fin de mes explications, il me déclara qu'il était l'oncle de cet officier. Il affirma être indigné de la mauvaise conduite de son neveu et de la façon dont il m'a compromise dans toute la maison. Il m'assura que son neveu n'est qu'un gamin, une tête brûlée. Il m'offrit de me prendre sous sa protection. Il insista en même temps pour que je ne prête pas l'oreille aux jeunes gens, ajoutant qu'il sympathisait à ma situation comme un père, qu'il éprouvait des sentiments paternels pour moi et serait disposé à m'aider en tout. Je rougissais, me demandant ce que je vais en penser, mais je ne me hâtais point de le remercier. Alors il m'a pris la main de force, m'a tripoté le menton, observa que j'étais charmante et qu'il était ravi de constater que j'avais des fossettes sur les joues. Oh, Dieu sait ce qu'il m'a dit. Pour finir, il voulut m'embrasser en prétextant qu'il était vieux. Oh, il est si répugnant. Et Fedora entra à ce moment. Oh, il se troubla un peu, affirma de nouveau qu'il ressentait de l'estime pour moi à cause de ma modestie et de ma bonne conduite, et qu'il souhaitait que j'aie confiance en lui et ne le craigne point. Il a attiré ensuite Fedora dans un coin et a voulu, en alléguant des motifs bizarres, lui remettre de l'argent. Fedora a refusé, cela va de soi. Finalement, il s'est décidé à partir, mais il a renouvelé ses assurances, promettant de revenir une autre fois et de m'apporter des boucles d'oreilles. Il paraissait très confus lui-même. Il m'a conseillé de changer d'appartement et m'a recommandé un logement qu'il dit être très bien et qui ne me coûterait rien. Il a déclaré qu'il ressentait beaucoup d'affection pour moi parce que je suis une jeune fille honnête et raisonnable. Il m'a conseillé d'éviter les jeunes gens dépravés et m'a dit qu'il connaissait Anna Fyodorovna et qu'elle l'avait chargée de m'annoncer qu'elle viendrait me voir elle aussi. À ce moment, j'ai tout compris. Oh, je ne sais quelle colère m'a saisi. C'était la première fois de ma vie que je me trouvais dans une situation pareille. Je me suis mise dans tous mes états, je lui ai crié mon indignation à la face. Il s'est troublé complètement. Fedora est venu à la rescousse en cet instant et l'a presque mis à la porte de notre logis. Nous avons conclu que toute l'affaire avait été montée par Anna Fyodorovna. D'où nous connaîtrait-il sans cela? Moi, je m'adresse à vous maintenant, Makar Alexeyevitch. Je vous supplie de nous aider. Ne nous abandonnez pas, pour l'amour de Dieu, dans une telle situation. Empruntez de l'argent, je vous en prie. Procurez-vous ne fût-ce qu'une petite somme, car nous n'avons pas de quoi payer notre déménagement, et il nous est absolument impossible de demeurer ici plus longtemps. C'est la vie de Fedora également. Il nous faut disposer de 25 roubles au moins. Oh, je vous les rendrai, je les gagnerai par mon travail. Fedora m'apportera de nouvelles commandes dans quelques jours, en sorte que si vous hésitiez par hasard à cause du taux élevé exigé, ne vous laissez pas arrêter par cette difficulté. Consentez à tout, je vous rembourserai entièrement, mais au nom du ciel, ne me laissez pas sans appui. Il m'en coûte, certes, de vous importuner actuellement, Mais vous êtes à cette heure mon seul espoir. Adieu, ma Karaïsseïevitch. Pensez à moi et que le Seigneur vous accorde de réussir dans vos démarches. V.D. août. Ma tourterelle, ma chère Varvara Alexeyevna, tous ces coups inattendus du sort m'accablent. Ce sont ces terribles calamités-là qui brisent mon courage et paralysent mon âme. Cette vile engeance de parasites divers et de petits vieux dégoûtants vous pousse non seulement au désespoir, vous, mon doux ange, mais ils ont juré par surcroît de me mener à bout, de m'achever complètement. Ils y parviendront, ces parasites. Ils y réussiront, je vous le jure. Car je préférerais mourir maintenant plutôt que de ne pas vous aider. Si je ne vous aide pas, c'est la mort pour moi, Valinka, la mort certaine, la vraie mort. Et si je vous aide, vous vous éloignerez de moi? Vous vous envolerez, mon oisillon, de votre petit nid, ou de vilains hiboux ont cherché à vous tuer à coups de bec. Voilà ce qui me tourmente, ma petite mère. Mais aussi, comment, Varinka, pouvez-vous vous montrer si cruelle, vous aussi, à quoi songez-vous? On vous persécute, on vous offense, vous souffrez, mon oiselet, et avec cela vous vous reprochez de m'importuner. Vous promettez de travailler pour payer votre dette, c'est-à-dire que vous vous tuerez avec votre frêle santé pour arriver à me rembourser dans les délais. Avez-vous réfléchi, Marinka, ce que vous dites là? Pourquoi parlez-vous de faire des travaux de couture? Pourquoi vous fatiguez, vous tourmentez l'âme par tous ces soucis, fatiguez vos petits yeux charmants et minez vos forces? Oh, Varinka, Varinka, voyez-vous, mon bon ange, je ne suis bon à rien, peut-être, et je le sais moi-même que je ne suis bon à rien, mais je ferai en sorte de me rendre utile quand même. Je surmonterai tous les obstacles, je me procurerai du travail au dehors, je ferai des copies pour divers écrivains, j'irai les trouver moi-même, je leur offrirai mes services. Je m'imposerai, je les forcerai à me donner du travail, car ils ont besoin de bons copistes, je sais qu'ils en ont besoin. Mais je ne vous permettrai pas de vous tuer à la tâche. Je ne tolérerai pas que vous mettiez à exécution ce projet abominable. J'emprunterai de l'argent, mon doux ange, rassurez-vous, et je mourrai plutôt que de ne pas en emprunter. Vous me dites, ma tourterelle, de ne pas reculer devant des intérêts usuraires. Je ne reculerai pas, ma petite mère, je ne m'effraierai pas, je ne reculerai devant rien désormais. Je demanderai, ma petite mère, après de 40 roubles en assignat. Ce n'est pas beaucoup, Varinka, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'on m'avancera 40 roubles sur parole? Peut-on se fier à moi à première vue? Suis-je capable, enfin, c'est-à-dire, suis-je capable, selon vous, d'inspirer confiance et certitude d'emblée? Enfin, j'entends par ma physionomie, par mon aspect. Est-ce que je fais bonne impression? Tâchez de vous souvenir, mon doux ange, si je fais bonne impression au premier regard, si je puis bien disposer les gens vers moi. Qu'en pensez-vous, vous, par exemple? C'est que je ressens une sorte de terreur à cette idée, une crainte maladive, à vrai dire. Sur ces 40 roubles, je réserve 25 pour vous, Marinka. Je donnerai 2 roubles d'argent à ma logeuse, et le reste sera donc pour moi, pour mes besoins, moi. Il conviendrait à la vérité de donner davantage à la logeuse, ce serait même indispensable. Mais réfléchissez-y vous-même, ma petite mère, faites le compte des dépenses que je suis obligé de faire, et vous verrez que je suis dans l'impossibilité de lui verser plus de 2 roubles d'argent. Par conséquent, la question ne se pose pas, et mieux vaut ne plus en parler. Je m'achèterai une paire de chaussures pour 1 rouble d'argent. Je me demande si ma vieille paire tiendra encore jusqu'à demain, et si je pourrai la mettre pour me rendre à mon bureau. Oh, j'aurai besoin également d'un foulard pour le cou, car l'ancien a près d'une année déjà. Mais puisque vous m'avez promis de me couper dans un de vos vieux tabliers, un foulard, et même un plastron, je ne m'en préoccupe plus pour l'instant. Voici donc des chaussures et un foulard. Il me faut en outre des boutons, car j'ai perdu une bonne moitié de ceux de ma tunique. Je tremble en songeant que son excellence pourrait s'apercevoir de ce désordre. Et que dirait-il alors, ciel, que dirait-il? Je n'entendrai pas d'ailleurs les remarques qu'il ferait dans cette occasion, car je mourrais, oui, je mourrais sur place. Je mourrais tout bonnement de honte et de désespoir à cette seule idée. Oh, que c'est dur, ma petite mère! Il me restera ainsi, après toutes ces dépenses indispensables, un billet de 3 roubles, et cela suffira pour vivre, ainsi que pour m'acheter une demi-livre de tabac. Car je suis incapable, mon doux ange, de vivre sans fumer. Voici 9 jours bientôt que je n'ai pas mis la pipe à la bouche. J'aurais pu, à la rigueur, m'acheter ce tabac sans vous en parler, mais je rougirais de le faire. Vous êtes dans le malheur, vous vous privez de tout, et moi, je m'offre toutes sortes de menus plaisirs. C'est pourquoi je vous en parle ici, afin que les remords ne me tourmentent point. Il faut que je vous l'avoue franchement, Varinka. Je me trouve actuellement dans une situation désastreuse, et je n'ai jamais rien connu de pareil dans mon existence, jamais. La logeuse me méprise. Je ne possède plus le respect de personne. Des difficultés de tous les côtés et des dettes. Dans mon travail, au bureau, où mes collègues ne me témoignent même pas auparavant une sympathie exagérée, la situation est pire encore, ma petite mère. Je tâche de passer inaperçu, je me fais petit, je me cache. Je me glisse vers ma place au bureau en m'efforçant d'éviter les regards et de ne rien voir moi-même. C'est à peine si j'ai assez de courage pour avouer toutes ces choses. Et s'il me refusait cette avance? Oh non, non, mieux vaut, Marinka, ne pas y penser et ne pas me ronger le cœur avec de telles idées. C'est aussi pourquoi je vous écris, afin de vous mettre en garde et que vous ne vous tourmentiez pas non plus par une mauvaise pensée de ce genre. Mon Dieu, qu'adviendra-t-il de nous en ce cas? Il est vrai que vous ne me déménageriez pas et resteriez dans cet appartement, en sorte que je continuerais à vivre auprès de vous. Mais non, je n'oserais même pas rentrer chez moi si cela devait arriver. Je me laisserais périr quelque part, je me laisserais mourir. On m'aperçoit que ma lettre est bien longue. Il faudrait pourtant que je me rase, c'est plus convenable d'être rasé. Les convenances ont toujours leur raison d'être. Que le Seigneur nous aide. Je vais faire ma prière et en route, Monsieur Dievouchkine.
5 août. Mon très cher Makar Alexeyevitch, si du moins vous ne vous tourmentiez pas ainsi, il y a déjà assez de malheur sans cela. Je vous envoie 30 kopecks d'argent, il m'est absolument impossible de faire plus. Achetez-vous ce dont vous avez le plus besoin, afin de vivre jusqu'à demain, en tout cas. Il ne nous reste presque plus rien, et j'ignore ce que sera le lendemain. C'est bien triste, Makar Alexeyevitch. Il ne sert à rien, d'ailleurs, de vous affliger, la chose n'a pas réussi. Qui pouvons-nous? Fedora assure que ce n'est pas une catastrophe, que nous pouvons demeurer provisoirement dans ce logement et que nous n'aurions pas beaucoup gagné de reste à changer de domicile. On aurait toujours pu nous retrouver si on le voulait absolument. Cependant, je trouve que ce n'est pas très bien de rester ici maintenant. Si je me sentais si triste, je vous aurais écrit quelque chose à ce sujet. Vous avez un caractère étrange, Makar Alexeyevitch. Vous prenez trop à cœur les malheurs d'autrui. De cette façon, vous serez toute votre vie un homme extrêmement malheureux. Je lis attentivement chacune de vos lettres. Je me rends compte que vous vous tourmentez pour moi et que vous vous faites des soucis à mon sujet, plus que vous ne vous en êtes jamais fait pour vous-même. Tout le monde dira évidemment que vous avez bon cœur, mais moi, je trouve que vous êtes trop bon. C'est un conseil d'ami que je vous donne ici, Makar Alexeyevitch. Je vous suis reconnaissante, très reconnaissante même, de tous les efforts que vous êtes donnés pour moi. Je les reconnais et j'y suis profondément sensible. Jugez vous-même, dans ces conditions, combien il m'est pénible de constater qu'aujourd'hui encore, après tous ces malheurs que vous avez connus et dont j'ai été involontairement cause, qu'aujourd'hui encore, vous n'existez et ne vivez que par moi et pour moi. Mes joies, mes peines, mon âme, on dirait qu'il n'y a rien d'autre pour vous au monde. Si l'on devait prendre à cœur à ce point tout ce qui arrive à des étrangers, et si l'on sympathisait de cette façon au malheur de chacun, il y aurait réellement de quoi devenir l'être le plus infortuné de la terre. Lorsque vous êtes entré chez moi aujourd'hui, en sortant de votre bureau, j'ai pris peur en voyant votre expression. Vous aviez l'air pâle, épouvanté, désespéré. Vous aviez la mine défaite, et tout cela parce que vous redoutiez de me raconter votre insuccès, que vous craigniez de m'affliger, de m'inquiéter. Mais en vous rendant compte que j'étais disposé à en rire, vous avez paru soulagé tout à coup. Makar Alexeyevitch, ne vous tourmentez pas. Ne désespérez pas, devenez raisonnable, je vous en prie, je vous en supplie. Vous verrez que tout finira par s'arranger et que tout changera pour le mieux. Sinon, vous ne pourrez plus vivre en souffrant ainsi continuellement du malheur des autres. Adieu, mon ami, je vous supplie encore une fois de ne point trop vous inquiéter à mon sujet. V.D. Saint-Coût. Ma tourterelle, ma Varinka. Tant mieux, mon doux ange, tant mieux. Vous trouvez que le malheur n'est pas si grand de n'avoir pu me procurer de l'argent jusqu'ici. Tant mieux, me voici content et heureux pour vous. Je me réjouis même à l'idée que vous ne songez plus à me quitter, pauvre vieillard que je suis, et que vous restez dans ce logement. Pour vous dire la vérité entière, mon cœur s'est inondé de joie quand j'ai lu ce que vous dites dans votre lettre de mes sentiments pour vous et que j'ai vu de quelle façon gentille vous savez les apprécier. Je n'en parle pas par fierté, mais parce que j'y vois la preuve de l'affection que vous me portez du moment que vous vous inquiétez pareillement de l'état de mon cœur. Tant mieux, mais qu'importe mon cœur maintenant. Le cœur, c'est à part. Vous m'ordonnez d'être courageux. Oui, mon doux ange, je le sais bien moi-même qu'il faut du courage. Mais décidez-vous-même, ma petite mère, et réfléchissez. Dans quelles chaussures me rendrai-je demain à mon travail? Voilà ce qu'il en est, ma petite mère. C'est là une pensée qui peut tuer un homme, l'anéantir complètement. Surtout, ma petite mère, que je ne pense peine. Pas pour moi seul, que je ne souffre pas à cause de moi uniquement. Cela me serait égal, d'ailleurs, de sortir sans manteau et sans chaussures par un temps glacial. Je pourrais le supporter, je suis prêt à tout subir, quant à moi. Je suis un homme simple, un petit homme. Mais que diront les autres, grand ciel? Que diront mes ennemis et toutes ces mauvaises langues en me voyant sans manteau? Car c'est pour eux, c'est pour les gens qu'on est obligé de porter un manteau et des chaussures aussi. C'est pour eux, sans doute, qu'on les met. J'ai donc besoin de chaussures, mon âme, ma petite mère, pour préserver mon honneur et ma bonne réputation. Avec des bottines trouées, l'un et l'autre sont compromis, croyez-moi, ma petite mère. Croyez-en l'expérience d'un vieillard qui a beaucoup vécu, qui connaît le monde et les hommes. Croyez ce que je vous dis, et non pas ce qu'écrivent ces gribouilleurs de papier,
ces écrivaillons littéraires.
Je ne vous ai pas encore raconté en détail, ma petite mère, comment tout ça s'est passé aujourd'hui. Oh, j'en ai tant souffert, j'en ai tant subi de misère morale durant cette seule matinée, plus qu'il ne m'arrivait jadis pour une année entière. Voici ce qui est arrivé. Je me suis levé et je suis sorti de très bonne heure afin de trouver chez lui et d'arriver à temps ensuite à mon bureau. Il pleuvait, il y avait de la boue dans la rue. Je me suis enveloppé dans mon manteau. J'allais ainsi dans la rue et je murmurais « Seigneur, pardonne-moi mes péchés et envoie-moi le succès dans cette entreprise. » En passant devant l'église de N, je me suis signé. Je me suis repenti de tout le mal que j'ai fait et j'ai songé alors que je suis indigne de converser avec Dieu. Je suis rentré en moi-même sans vouloir regarder autour de moi. J'allais sans me soucier du chemin que je suivais. Les rues étaient désertes et les rares passants que je croisais paraissaient tous tellement préoccupés, tellement affairé. Ce n'est pas étonnant. Qui donc ira se promener à une telle heure et par un temps pareil? Un groupe d'ouvriers aux mains sales vint à ma rencontre et ils m'ont bousculé en passant, ces moudjiks. Mon courage m'abandonna alors et je me sentis envahi de crainte. Je ne voulais même pas penser à cette somme que je devais emprunter. Je n'osais pas y songer. J'allais comme ça, à tout hasard. Près du pont de la Résurrection, une semelle de mes chaussures s'est à moitié détachée, si bien que je ne sais pas comment j'ai poursuivi mon chemin. Voilà que j'aperçois soudain le copiste Ermolaïev qui venait en sens inverse. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé, et m'a suivi des yeux comme s'il désirait me demander de l'argent pour aller boire. « Il s'agit bien de boire en ce moment, me suis-je dit alors. » Je me sentais très fatigué. Je me suis arrêté pour me reposer quelques instants, et je me suis remis en route ensuite. Je cherchais autour de moi un objet sur lequel j'aurais pu arrêter mes pensées, afin de me distraire et de me donner du courage. Mais non, impossible de fixer mes idées sur quoi que ce soit. Et avec cela, je m'étais sali terriblement à cause de cette boue, si bien que j'avais honte de moi. J'aperçus enfin de loin une maison en bois de couleur jaune avec une sorte de balustrade. « Oh, mais c'est là, me suis-je dit, c'est la maison que m'a décrite Emilia Ivanovitch. C'est là qu'habite Markov. » Ce Markov, ma petite mère, est précisément celui qui prête à intérêt. Oh, j'ai tout oublié en cet instant. J'étais sûr que c'était la maison de Markov, mais j'ai voulu le vérifier encore. Je me suis renseigné auprès du portier. « Est-ce bien la maison de Markov, mon petit père ?» Ce portier est tellement grossier. Il m'a répondu de mauvaise grâce, comme s'il était fâché contre quelqu'un, et comme s'il comptait chaque mot qu'il prononçait. « Oui, fut-il, c'est la maison de Markov. » Oh, tous ces portiers sont tellement renfrognés, mais qu'importe. Seulement, cela m'a laissé une impression désagréable. C'est toujours la même chose. Tout ce qui nous arrive s'accorde dans notre état d'âme, et quand on est triste, il ne survient que des choses désagréables. J'ai passé à 3 reprises devant cette maison, et chaque fois, je sombrais un peu plus bas dans le découragement. Non, me disais-je, non, il me refusera cette avance. Il ne me connaît pas d'abord, et puis l'affaire est délicate, et je n'en impose pas par mon aspect. Oh, que le sort en décide, me suis-je dit pour finir. Du moins, je ne pourrais pas me reprocher ensuite de n'avoir pas tenté la chose. On ne me tuera pas pour un essai. Je me suis donc décidé finalement à ouvrir discrètement le portail. Voilà qu'un nouveau malheur s'abat sur moi. Un méchant petit chien, une petite bête stupide, se fâche contre moi et se met à aboyer de toutes ses forces. Il ne s'arrêtait pas, ce sale chien, de japper furieusement. Mais ce sont des détails de ce genre, de misérables petits défaits comme celui-ci, qui peuvent achever un homme, le pousser hors de lui parfois, mettre à néant d'un seul coup les décisions les plus fermement mûries. J'étais déjà plus mort que vif en pénétrant dans la maison, et là un nouveau malheur surgit. Dans l'obscurité, je n'ai pas bien distingué où je mettais le pied en franchissant le seuil de la porte d'entrée. Il y avait à cet endroit une femme, justement, une femme qui versait un seau de lait dans des pots, et comme je l'ai heurté, le seau lui a échappé des mains et le lait s'est répandu par terre. Mais s'est mise à glapir et à hurler, cette idiote. « Regarde donc, tu marches, petit vieux » criait-elle. « Que cherches-tu ici ?» Et des tas de mots encore, après quoi elle entonnait des lamentations interminables. Je vous raconte tout ça, ma petite mère, parce que ce sont des histoires qui m'arrivent régulièrement dans ces sortes d'affaires. Toujours il faut, en pareil cas, que j'accroche quelque chose ou quelqu'un. Alors une vieille sorcière a couru au bruit. C'était la propriétaire de la maison, visiblement. Je vais droit à elle et je lui demande « Est-ce bien ici qu'habite M. Markov ?»« Non, » me répondit-elle. Et puis, m'ayant examiné des pieds à la tête, elle ajouta au bout d'une ou deux secondes « Que lui voulez-vous ?» Alors je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, comme quoi Emilien Ivanovitch et tout le reste. « Je désire parler d'affaires », lui ai-je déclaré. La vieille appela sa fille, une gamine déjà grande, mais nu-pied. « Va chercher le père, il est là-haut, chez les locataires. Veuillez entrer, monsieur. » Je suis entré dans la chambre. C'était une pièce convenable, avec des tableaux sur les murs, rien que des portraits de généraux. Il y avait aussi un divan, une table ronde, un pot de balsamine et du réséda. Demeuré seul, je me mis à réfléchir. Et si je m'en allais? Et si je partais tout simplement, sans attendre la suite? Ma parole, ma petite mère, j'avais envie de me sauver. « Oh, je ferais mieux, me suis-je dit, de revenir demain. Le temps sera meilleur. Il vaut mieux patienter un peu. La journée n'est pas favorable, j'ai versé ce seau de lait, et les généraux sur les murs ont l'air si sévères. Oh, je préfère revenir demain. » Déjà, je me dirigeais vers la porte lorsqu'il est entré. C'est un homme grisonnant, avec des yeux de filou, vêtu d'une robe de chambre graisseuse, une simple ficelle lui tendant lieu de ceinture. Il s'informa du but de ma visite. Je lui ai expliqué que c'était Emilien Ivanovitch qui m'avait envoyé, qu'il me fallait 40 roubles et que je venais lui parler d'affaires. Mais il ne me laissa pas achever. Je lus immédiatement dans ses yeux que tout était perdu. « Je ne traite pas d'affaires, fit-il, car je n'ai pas d'argent, mais auriez-vous un gage à m'offrir par hasard ?» Je lui ai répondu que je n'avais pas de gage, mais qu'Emilien Ivanovitch... Bref, je lui ai dit que j'en avais un besoin urgent. Ah, il m'a écouté jusqu'au bout, cette fois. « Rien à faire, reprit-il alors. Et il ne s'agit pas d'Emilien Ivanovitch. Je n'ai pas d'argent, c'est tout. » C'est bien ça, ai-je songé alors. C'est ce que j'avais prévu, je l'avais pressenti. J'aurais mieux aimé en cet instant, Varinka, que la terre m'engloutit. Oh, j'eus froid tout à coup.
J'avais les jambes fauchées, je sentais les fourmillements dans le dos. Je le regarde et lui, il me regarde aussi, avec l'air de dire « Mais va-t'en donc, qu'attends-tu encore ?» En d'autres circonstances, je serais mort de honte sur place. « Pourquoi vous faut-il cet argent ?» me demande-t-il soudain. Ah, il a osé me poser cette question, ma petite mère. J'ai ouvert la bouche alors pour ne pas paraître stupide, mais il n'a même pas voulu m'écouter. « Non, non, répéta-t-il, je n'ai pas d'argent, sans quoi je vous aurais rendu ce service très volontiers. » Oh, j'ai essayé de le convaincre. J'ai parlé, parlé, disant que ce n'est pas une forte somme et que je la lui rendrai, que je la rembourserai dans les délais, même avant l'échéance. J'ai ajouté que j'accepterai n'importe quel intérêt et que je paierai tout. Je le lui ai juré. Je pensais à vous en ce moment, ma petite mère. J'ai songé à vos malheurs, à vos difficultés, à votre misère. Je me suis souvenu aussi de ce demi-rouble que vous m'avez envoyé l'autre jour. « Ben non, s'est-il écrié, inutile de parler d'intérêt. Pense encore si vous me donniez un gage. Mais comme ça, non. Je n'ai pas d'argent, et là, je vous jure que je n'en ai pas. Sinon, c'eût été avec plaisir, Dieu m'est témoin. » Il a osé le jurer, le brigand. Voilà, ma petite mère. Je ne sais plus comment je suis sorti de là, comment j'ai traversé le quartier de Viborg et me suis retrouvé sur le pont de la Résurrection. J'étais là, affreusement, sans force, gelé, frissonnant. Et c'est à 10 heures seulement que je suis arrivé à mon bureau. J'avais voulu me nettoyer un peu dans le vestibule, mais Snigirev, le garde, m'a fait observer que ce n'était pas permis, que je risquais d'abîmer la brosse. « Oh, la brosse est propriété de l'État, mon cher monsieur, » fit-il. « C'est comme cela qu'ils sont avec moi maintenant, ma petite mère, et je compte moins à leurs yeux qu'un paillasson. C'est cela qui m'accable, Varinka. Ce ne sont pas les difficultés d'argent qui me tuent, mais toutes ces avanies, ces chuchotements, ces sourires, ces plaisanteries. Son Excellence pourrait, l'un de ces jours, faire une réflexion à mon sujet. Oh, ma petite mère, les beaux temps sont finis pour moi. J'ai relu aujourd'hui toutes vos lettres. Que c'est triste, triste, ma petite mère. Adieu, ma chère amie. Que le Seigneur vous protège. Dievuchin. Je me suis post-scriptum efforcé de vous raconter mon malheur en y mêlant un peu d'humour. Mais cela ne me réussit pas à cette heure, l'humour. J'avais voulu me conformer à vos conseils. Bon, je viendrai vous voir, ma petite mère. Je viendrai certainement. 11 août. Varvara Alexeyevna, ma tourterelle, ma petite mère, je suis perdu, nous sommes perdus tous les deux. Nous sommes perdus l'un et l'autre, irrémédiablement, définitivement perdus. Ma réputation, ma dignité, tout est fini maintenant. Je vais périr et vous allez périr aussi, ma petite mère. Nous allons périr ensemble, sans espoir de salut. Et c'est moi, moi qui vous ai conduit dans cet abîme. On me bafoue, ma petite mère, on me méprise, on me tourne en ridicule. Et la logeuse s'avise tout bonnement à m'insulter. Elle a crié contre moi aujourd'hui. Elle m'en a dit de toutes les couleurs et m'a traité plus bas que terre. Vers le soir, un des amis de Rataziaïev a commencé à lire à haute voix un brouillon de lettres que j'avais rédigé pour vous et qui m'était par mégarde tombé de la poche. Ma petite mère, si vous saviez quelles plaisanteries ils se sont permises à ce sujet. Ils ont ri à gorge déployée, les traîtres, en faisant toutes sortes de remarques et de réflexions sur nous. Je me suis précipité dans leur chambre, j'ai confondu Ratazaïev. Je lui ai reproché de trahir notre amitié, je lui ai dit qu'il était un traître. Il m'a répondu, Ratazaïev, que c'était moi le traître, parce que je me préoccupais en cachette de faire des conquêtes. Ah, vous nous avez caché la vérité, m'a-t-il dit. Vous êtes un Lovelace, un vieux séducteur. Ils m'appellent tous Lovelace maintenant, et ils ne connaissent plus que ce nom pour moi. Comprenez-vous, mon doux ange, comprenez-vous? Ils sont au courant de tout, ils savent tout désormais, à votre sujet également, ma chère amie. Ils connaissent les détails de votre existence, ils ont tout appris. Ce serait rien encore, mais Faldoni, le domestique, fait cause commune avec eux. Je l'ai envoyé aujourd'hui à la charcuterie pour quelques achats. Il a refusé d'y aller, prétextant qu'il avait affaire. Ben, c'est ton devoir d'obéir, lui ai-je dit. Mais non, m'a-t-il répliqué, je suis pas obligé de vous obéir. Vous ne payez pas la patronne et j'ai pas de devoir envers vous par conséquent. Oh, je n'ai pas pu supporter cet homme blessant de la part de ce Boudjikignard. Je l'ai traité d'imbécile. Lui, alors, oh, imbécile, imbécile et demi. Oh, j'ai cru qu'il avait bu et que le vin le rendait grossier à ce point, et je le lui ai fait observer. Ben, tu n'es pas de sang-froid, tu es ivre sans doute, Manon. À quoi il a osé répliquer? Est-ce avec votre argent, par hasard, que j'aurais bu? Vous n'avez pas vous-même de quoi vous offrir un petit verre. Vous mendigotez les sous auprès d'une espèce de femme. Et il a ajouté, et cela se prend pour un monsieur. Voilà, ma petite mère, où j'en suis aujourd'hui. J'ai honte de vivre, Varinka. C'est comme si j'étais cloué au pilori. Je suis tombé plus bas qu'un vagabond sans passeport. Quelles épreuves, quelles terribles épreuves. Je suis tombé, tombé pour de bon. Je suis perdu sans retour.